Vous écoutez RTL.
RTL, il est 18h. RTL Soir, Bernard Poirette.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans RTL Soir. Devant nous, il y a 2 heures d'information et de débat, avec tout de suite, pourquoi attendre, la première édition du journal, qui est présentée par Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. La barrière qui a cédé au stade de la Licorne à Amiens présentait bien des anomalies. Première conclusion des experts, l'accident il y a 2 semaines avait fait 29 blessés. L'affaire Ferrand classée sans suite, le parquet de Brest fait valoir la prescription dans l'enquête sur les mutuelles de Bretagne.
Et notre premier invité à 18h20 sera Éric Alt, qui est vice-président de l'association Anticor, une association qui lutte contre la corruption et pour plus d'éthique en politique.
Emmanuel Macron se jette à l'eau. Première grande interview télé pour le président, ce sera dimanche à 20h sur TF1 et LCI. À suivre également, la SNCF un peu radine. Elle promettait des billets à petit prix pour les fêtes. On n'en a pas vu la couleur, car il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et puis le dernier adieu à Jean Rochefort. Casting grand luxe pour les obsèques du comédien Gentleman. La bourse de Paris, elle finit en légère baisse de 0,17% à 5351 points.
À la fin du journal, la question de l'actualité. La France insoumise est en pleine campagne complotiste contre le drapeau européen bleu avec 12 étoiles dorées. Signification et symbole de ce fameux drapeau. Juste avant 18h30, les coulisses de la semaine du goût vécue dans une classe d'école élémentaire, pas loin de Paris. Et dans la deuxième demi-heure, mais où est passé le Front National ? Olivier Mazerolle s'interroge et répond à la question. Puis deuxième invité de RTL Soir, Pierre-Louis Basse, 3 ans à l'Élysée pour s'occuper des grands événements sous François Hollande. Il en a tiré un livre cruel et savoureux, Le flâneur de l'Élysée, qui vient de paraître chez Stock. À 18h50, RTL Monde bien sûr, et dès 19h15, je referai le monde avec les polémistes. Puis il y a aussi Patricia Charbonnier. Bonsoir Patricia.
Bonsoir.
Alors là, en matière d'annonces météorologiques, il est rare que vous ayez beaucoup mieux que ce que vous allez nous dire pour ce week-end.
Une météo presque parfaite, avec du soleil, après dissipation quand même de la grisaille matinale. Demain matin, ce sera brumeux, gris sur la moitié nord du pays, dans le Val de Saône, dans les plaines du sud-ouest et sur les côtes méditerranéennes, mais le soleil s'imposera très très vite avant la fin de la matinée, donc ce sera donc un temps très ensoleillé, excepté localement près du golfe du Lion, où là le vent marin apportera un petit peu d'humidité, donc des entrées maritimes, et très localement sur les côtes bretonnes, de la douceur demain matin, 6 à 16 degrés, et de la chaleur pour demain après-midi, jusqu'à 30 degrés comme aujourd'hui dans le sud-ouest, 26 à Lyon, 25 à Montélimar, 24 degrés à Rennes comme à Paris, et 20 degrés au Havre.
Merci Patricia.
RTL Soir.
Les experts ont donc parlé. La barrière qui a cédé au stade d'Amiens, le stade de la Licorne, présentait bien des anomalies de fixation.
Le 30 septembre dernier, lors du match Amiens-Lille, cette barrière s'était effondrée sous la pression de dizaines de supporters lillois. 29 personnes avaient été blessées, dont 5 grièvement. Bonsoir Eric Silvestro.
Bonsoir.
Le parquet avait ordonné une expertise, elle promet d'être accablante.
Oui, car si les experts n'ont pas encore rendu leur rapport détaillé, les constatations faites lors de l'inspection du stade de la Licorne ne laissent guère la place au doute. Des anomalies de fixation ont en effet été relevées sur la barrière dégradée, mais également à d'autres endroits de l'enceinte du club Picard. S'il se veut prudent sur le rôle de la poussée exceptionnelle engendrée par la joie des supporters lillois après le but de leur équipe, Alexandre Debauchère, le procureur d'Amiens, joint pour RTL par Vincent Serrano, apporte des précisions sur les points de fragilité décelés.
Il y a manifestement des anomalies sur la manière dont la barrière est fixée sur le bas de la tribune en béton et sur la manière dont les barrières sont solidarisées entre elles. Et ces deux éléments, on va les retrouver en plusieurs endroits sur les barrières de sécurité qui se trouvent en bas des tribunes tout autour du stade.
En filigrane donc, les risques d'effondrement étaient bien réels, les investigations se poursuivent et une information judiciaire contre X a été ouverte afin que toutes les parties puissent avoir accès au dossier.
Merci Eric Silvestro. Et dès jeudi, la Ligue avait annoncé que le match Amiens-Bordeaux du 21 octobre était délocalisé au Havre. Le foot encore et ce soupçon de corruption contre le président du PSG et patron de beIN Sports, Nasser El Khelaïfi. La police italienne a saisi une villa en Sardaigne qu'il aurait utilisée pour acheter Jérôme Valk, l'ancien numéro 2 de la FIFA, et obtenir ainsi les droits télé de plusieurs Coupes du Monde. Valk assure qu'il a payé la location de cette villa. La FIFA ouvre officiellement une enquête.
Des anomalies donc au stade de la Licorne, mais rien à redire dans les activités de Richard Ferrand. L'enquête sur les mutuelles de Bretagne est classée sans suite.
L'éphémère ministre chef de file des députés En Marche était soupçonné de prise illégale d'intérêts. On l'accusait d'avoir favorisé sa compagne à l'époque où il était directeur général des mutuelles et député socialiste. Finalement, pas de poursuite à la grande satisfaction de son avocat, maître Georges Ollot.
Dans cette affaire, on a voulu nuire peut-être abattre Richard Ferrand, notamment à travers sa compagne. Il a fallu une enquête, plusieurs mois d'enquête, pour qu'on puisse enfin être entendu, qu'on puisse enfin vérifier ce qui était affirmé sans aucun contrôle. C'est heureux qu'on ait une justice en France, une vraie justice avec des magistrats qui prennent leurs responsabilités. Je ne peux que le saluer, la messe est dite.
Affaire classée donc, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a absolument rien à reprocher à Richard Ferrand, Thomas Prouton.
En effet, car c'est d'abord pour cause de prescription que le parquet de Brest classe l'affaire. Ce qui était en jeu, c'était un bail commercial signé en 2011 entre les Mutuelles de Bretagne et une SCI immobilière. Richard Ferrand était à l'époque directeur général des Mutuelles et c'est sa compagne qui possédait la SCI, soupçon de favoritisme. Mais pour ce type de délit, le délai de prescription est de 3 ans. Le parquet renonce donc à ouvrir une information judiciaire sans trancher la réalité de l'infraction. En revanche, le procureur de Brest blanchit totalement Richard Ferrand de 2 autres mises en cause, l'abus de confiance et l'escroquerie. L'enquête a en effet établi que le montant fixé pour le bail était conforme au marché. Les Mutuelles de Bretagne n'ont donc pas été lésées. J'ai toujours su que je n'avais rien fait d'illégal ou d'immoral, c'est ce que vient de déclarer Richard Ferrand à nos confrères du Télégramme de Brest. Je me sens libéré, conclut le patron des députés En Marche.
Merci Thomas Proutouf.
Le Richard Ferrand donc est un soutien, on le sait, de la première heure d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui donnera dimanche soir sa première grande interview de président à la télévision.
Depuis son élection, il avait préféré se faire rare dans les médias et il avait soigneusement évité les interviews télé. Même le traditionnel entretien du 14 juillet était passé à la trappe. Eh bien, Emmanuel Macron sera finalement l'invité de TF1 et LCI dimanche soir à 20h. Pendant une heure, il sera interrogé par David Pujadas, Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot. Bonsoir Olivier Bost.
Bonsoir.
Pourquoi ce changement de pied et pourquoi maintenant ?
Eh bien, parce qu'il y a une petite musique qui s'installe, hein, le président des riches et une certaine incompréhension d'une part des Français. Même si les sondages d'opinion sont à la hausse ces dernières semaines, une bonne part des classes populaires et des électeurs de gauche qui ont choisi Emmanuel Macron à l'élection présidentielle décrochent. Ses choix, la suppression de l'ISF, les ordonnances apparaissent déséquilibrés. Ses écarts de langage, les fainéants et ceux qui foutent le bordel ont choqué. Dimanche soir, Emmanuel Macron va tenter de corriger le tir et expliquer les nouveaux chantiers qu'il ouvre. La réforme de l'assurance chômage, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Tout un travail de pédagogie, comme le confie son entourage. Un travail qui n'est pas fait suffisamment par les autres.
Et sur la forme, Olivier, cette interview sera tout de même relativement classique.
Oui, du très grand classique même. 3 journalistes face à lui, dans son bureau, pendant 1 heure. Fini les innovations en matière de communication. Fini la parole rare et les belles images qu'Emmanuel Macron a théorisées au début de son mandat pour faire tout le contraire de François Hollande. Plus les mois passent à l'Élysée, plus les difficultés s'accumulent. Et plus Emmanuel Macron retrouve les formules de ses prédécesseurs, dimanche soir en sera une nouvelle preuve.
Olivier Bost du service politique de RTL. On entre dans le vif du sujet au procès d'Abdelkader Merah, à savoir son éventuelle complicité avec son frère tueur Mohamed.
Pour la première fois, le frère du terroriste de Toulouse et Montauban est interrogé sur le fond, c'est-à-dire sa participation au vol du scooter qui a servi à Mohamed Merah et l'achat de son blouson de moto. Cindy Hubert, vous suivez ce procès pour RTL et sur ces deux éléments, eh bien, on tourne en rond.
Oui, et pourtant ce sont les seuls éléments matériels qui le relient aux actes de son frère. Dans ce dossier tentaculaire, il n'y a pas de téléphonie, pas de témoignage confondant. Et pour cause, le troisième homme censé avoir été dans la voiture au moment du vol du scooter a depuis été assassiné. Alors Abdelkader Merah répond tranquillement aux questions dans le box, toujours à la limite de l'arrogance. Oui, il était là quand Mohamed Merah a volé ce scooter. C'était un moment désagréable, dit-il, car c'est contraire à ma religion. Abdelkader Merah réajuste ses lunettes. Je me doutais bien que ce scooter n'allait pas servir à courir les missions d'intérim. Je pensais plutôt que mon frère s'en servirait pour des braquages, mais je ne savais pas qu'il l'utiliserait un jour pour ses tueries. Une version qui n'a rien de crédible pour Maître Maurice, l'un des avocats des parties civiles.
Aujourd'hui, il vient nous dire « je ne savais rien », alors même que c'est son mentor salafiste et qu'il a toujours été fier des actes commis par son frère. Donc nous verrons bien. Je crois que le dossier est en train d'avancer petit à petit, même si la défense continue, je le dis, à faire son cirque.
Et effectivement, il y a eu encore beaucoup de moments de tension aujourd'hui entre les avocats, toujours autour de cette même question centrale. Abdelkader Merah connaissait-il les desseins criminels de son frère ? C'est ce qui permettra ou non de le condamner à la perpétuité pour complicité.
Cindy Hubert en direct du Palais de Justice de Paris pour RTL. Le procès Fiona suspendu jusqu'à lundi. L'audience a dû être interrompue aujourd'hui après un vif incident qui a conduit les avocats de la défense à quitter tout simplement le Palais de Justice.
Une pause s'il vous plaît dans le journal 10h. Isabelle Choquet. Et ensuite, on parle des billets de train pour les fêtes. La SNCF promettait des tout petits prix. Elle a été quelque peu radine, semble-t-il.
RTL Soir, 18h11, Bernard Poirette, et pour la suite du journal, Isabelle Choquet.
Isabelle, en fait, il ne faut pas dormir, il vaut mieux, parce que sinon il faut se lever à l'aube carrément pour tenter d'aller acheter un billet de train vraiment pas cher pour les fêtes, et encore, ça ne suffit pas forcément.
Non, depuis hier, les réservations SNCF pour les fêtes sont ouvertes, pour les vacances de Noël, donc la SNCF avait promis des tarifs avantageux, les fameux billets Prums, mais même en se connectant dès 6h du matin, impossible d'en trouver, et forcément, eh bien, ça fait râler Eric Vanier.
Oui, et c'est ce qui est arrivé à Simène, qui pourtant s'est levé tôt hier matin pour avoir le meilleur prix entre Paris et Nice pour un départ le samedi 23 décembre. Elle raconte à Arnaud Touche.
J'avais mis une alerte sur mon téléphone pour avoir les billets, ce qu'ils appellent les billets Prums. Donc je m'étais levée plus tôt que prévu pour pouvoir avoir mon billet. Et là, les premiers prix à 7h du matin étaient à 132 euros l'aller. Beaucoup trop cher. Ça sera ou rentrer ou faire des cadeaux à ma famille. Il va falloir que je choisisse.
Alors en fait, c'est l'affluence qui fait les prix, le taux de remplissage des trains. Et hier, les fameux billets Prom se sont partis très très vite, 10% de connexions en plus par rapport à l'an dernier. Le directeur marketing de Voyage SNCF, Pierre Matuchet, a une explication. Le samedi 23 a été pris d'assaut.
C'est la première fois depuis 2001 que ça tombe le même jour où on a les gens qui partent en vacances et les gens qui partent dans le réveillon de Noël. Sur Paris-Marseille, ce matin, on avait déjà 10 trains complets pour le 23 décembre. Et il y aura aussi beaucoup de monde dans les aéroports, beaucoup de monde sur les routes et beaucoup de bouchons. Donc nous avons une configuration exceptionnelle ce 23 décembre.
Et les réservations se sont reportées sur les jours suivants, faisant déborder les trains et grimper les prix. Sinon, la SNCF est formelle. Il y avait cette année autant de billets à petit prix mis en vente dans les TGV que l'an dernier, à savoir 600 000.
Merci pour ces explications, Eric Vanier. En Bretagne, un étudiant de 20 ans a été retrouvé mort après un week-end d'intégration. Il avait 3,7 g d'alcool dans le sang. Pas de bizutage, juste un excès de boisson fatal. D'où cet appel de David Alice. Il est le président de la faculté de Rennes 1.
Je lance un appel à toutes ces associations étudiantes qui souhaitent faire des fêtes et qui, a priori, ne sont pas d'emblée intéressées par l'encadrement ou qui ne nous connaissent pas. Rapprochez-vous des services de santé, rapprochez-vous des universités, rapprochez-vous de vos élus pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Et j'ai eu la ministre qui a appelé la famille, qui m'a appelé pour marquer son soutien. C'est aussi pour sensibiliser toutes ces associations extérieures qui passent à travers les mailles du filet. Revenez et bénéficiez de cet accompagnement. Plus jamais ça.
David Alice, président de la faculté de Rennes 1 au micro RTL de Patrice Gabart. Suspense dans l'élection pour la présidence de l'UNESCO. La finale se joue en ce moment même entre le candidat qatari et l'ancienne ministre de la Culture, la française Audrey Azoulay.
Les obsèques de Jean Rochefort ont été célébrées cet après-midi à Paris. C'était une cérémonie, disons, à la hauteur de son immense talent.
Une foule compacte s'est pressée dans l'église Saint-Thomas d'Aquin pour rendre un dernier hommage au dandy moustacheux et facétieux. Un casting de rêve, son vieil ami Jean-Paul Belmondo, Guy Bedos, son ancienne compagne Nicole Garcia, Patrice Lecomte bien sûr, mais aussi Alain Souchon, Mylène Farmer ou encore Nicolas Canteloup. Et puis bien sûr Laurent Marsic, énormément d'anonymes.
Oui, plusieurs centaines de personnes massées dans cette église Saint-Thomas d'Aquin au cœur du 7e arrondissement de Paris, aux fenêtres, des immeubles, des anonymes, tout cela pour accompagner une dernière fois Jean Rochefort. Une messe ouverte par Clémence, la plus jeune fille de l'acteur.
Papa, c'était toujours le mot juste au bon moment. Papa, c'était le regard rieur, amusé, mêlé à une mélancolie que l'on pouvait rapidement déceler. Maman, tu as une phrase extraordinaire. Tu tenais la main de papa. Tu as dit que tu souhaitais à tout le monde de vivre ce que tu as vécu avec lui. En ajoutant, on avait un cousinage tactile.
Puis Édouard Baird, qui avait fait tourner Jean Rochefort en 2005, a tenté de faire sourire l'assistance, racontant les conseils amoureux que son aîné lui donnait, confiant « Je restais un piéton quand vous me parliez cheval ». Au premier rang, les amis, vous en avez cité beaucoup, à la sortie, beaucoup d'émotions, comme pour Jean-Loup Dabadie, l'auteur d'Un éléphant s'attrompe énormément et nous irons tous au paradis.
Vous l'imaginez, je ne ressens que de la peine et de la tristesse. Une seule chose, c'est que c'est seul aujourd'hui qui part en riant. Comme dirait Michel Piccoli, c'était quelqu'un, un personnage mélancolique. J'ai le cœur trop gros.
Et puis la plus jeune génération, Marina Hans, vue dans Japlou, il s'était croisé sur ce film-là.
Rochefort a véhiculé toute sa vie une présence de tolérance et d'ouverture à tout le monde. C'était quelqu'un qui regardait les gens. C'est très rare.
Jean Rochefort a ensuite été inhumé dans la plus stricte intimité. La famille n'a pas souhaité pour l'instant communiquer sur l'endroit où reposera l'acteur.
Voilà le reportage cet après-midi à Paris, signé Laurent Marsic, sur les obsèques de Jean Rochefort, qui est mort à 87 ans dans la nuit de dimanche à lundi. Merci beaucoup Isabelle Choquet. Revenez à 18h30 pour les titres de l'actualité.